Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette question de la synthèse néoclassique. Ce que je voulais vous faire discuter avec vous, c'était cette diversité des approches, en fait. Et on a deux voies de recherche qui partent de l'angle, et on a la voie suivie par l'angle lui-même, la voie suivie par Tom Patinkin, la voie suivie par Modigliani, et puis la synthèse produite par Tobin. Et donc on a déjà, vous voyez, une palette d'approches propre à la synthèse néoclassique. Donc la synthèse néoclassique, telle qu'elle est décrite par les théoriciens contemporains, qui recourent à une autre méthodologie, n'a rien à voir, est bien différente de celle que l'historien de la macroéconomie peut établir. Donc il y a une tension là, qui est, à mon avis, problématique et qui peut, que vous avez tout intérêt à exploiter, en fait. Alors je passe. Au chapitre, alors le chapitre 5, compte tenu du temps dont on dispose, je préférerais le traiter plus tard. Donc, il touche à la courbe de Phillips et au monétarisme. Donc, je préférerais basculer directement vers le chapitre 6, qui a trait à la croissance, au cycle et aux politiques de plein emploi. Alors, ce chapitre reprend des éléments qu'on a évoqué dans l'introduction, ce qui touche à la modélisation propre au MIT. Et la modélisation propre au MIT, elle est incarnée par un auteur en particulier, c'est Robert Solow, et le modèle de croissance qu'il développe. Donc le modèle de croissance néoclassique est développé par Robert Solow en 1956 dans le cadre du MIT. Et cette modélisation, elle va structurer une partie de la recherche sur la croissance. Elle est très bien présentée par Kevin Hoover et Mauro Boyanowski. Un autre papier de Kevin Hoover, qui écrit avec Verena Holzmeier, qui est très utile aussi. Donc, je voudrais discuter de ça avec vous. Alors, pour saisir un peu les grandes étapes de la réflexion dans le domaine de la croissance, il est très utile de partir d'Arod. D'accord. Très utile de partir d'Arod et de son principe d'instabilité. Donc, le théoricien de la croissance, par rapport auquel Solow se positionne, c'est Arod. En tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça que c'est perçu. Et c'est comme ça que Solow présente sa théorie en 1956, par rapport à Arod. Mais le travail de l'historien historique révèle en fait que les choses sont plus compliquées. Il se trouve en fait que Solow développe son modèle de croissance complètement indépendamment d'Arod. Et l'auteur qui est sa référence, ce n'est pas Arod, mais c'est Leontief. Solow est l'assistant de Leontief à Harvard dans les années 50. Et son modèle de croissance a pour vocation de rendre compte des mécanismes à l'œuvre dans les modèles type Leontief, simplifiés. C'est-à-dire on simplifie une économie à un secteur, on la ramène à une économie à un secteur, et on cherche à comprendre sa trajectoire de long terme. Et du même coup, on peut comprendre pourquoi le modèle de Solow et l'interprétation qu'il produit d'Arod est si différente de ce qu'on trouve chez Arod. Parce que précisément, Solow n'avait pas besoin d'Arod pour développer son modèle. Sais pas si c'est très clair, mais on va avoir le. Alors, que vous dire de.
Il dit que c'est pour répondre à Arod, mais en fait.
Exactement. Donc en fait, et là on a encore un bel exemple de reconstruction historique produite par un théoricien novateur. Comme Lucas voit la synthèse néoclassique par rapport à sa méthodologie, Lucas voit l'approche de la croissance d'Arod du haut de sa propre théorie. Mais en faisant ça, il biaise complètement la lecture ou il tord complètement la théorie d'Arod. Vous voyez? Donc le travail de l'historien, c'est de remettre un peu droit ces choses-là pour prendre la mesure d'une manière différente, pour prendre la mesure de l'innovation introduite par ces différents auteurs. Alors, Harrod et le principe d'instabilité. Donc lisons Harrod indépendamment de Solow, indépendamment de la façon dont il est présenté dans tous les manuels de macroéconomie sur la croissance. Donc c'est un Harrod qui n'a rien à voir avec celui qu'on a l'habitude d'enseigner. Si on fait cet effort, en fait, il faut partir de deux textes d'Harrod. Donc c'est des textes qui sont antérieurs à 1945, et sur lesquels je ne vais pas trop m'apesantir parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Vous avez un premier texte, c'est son livre « The Trade Cycle ». Voilà. Et puis vous avez un article d'Harrod, sorti en 1939, sur la croissance. Et donc, ces deux textes mettent au cœur de l'analyse le principe d'instabilité. Alors à nouveau, je voudrais faire un petit graphe pour vous ayez une idée en fait de la façon dont l'instabilité se posait selon Harrod. Alors, ce qui est tout à fait troublant quand on lit Harrod, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un macroéconomiste qui part de la microéconomie avant d'aller vers la macroéconomie. Donc ce n'est pas du tout l'économiste keynésien qui porterait peu d'intérêt pour la micro. Et son point de départ d'Harrod, c'est l'équilibre de l'entreprise en concurrence monopolistique. Donc il nous dit, admettons que les entreprises disposent d'un pouvoir de marché, admettons que leurs courbes de demande ne sont pas plates, mais décroissantes. Donc en fait, l'équilibre de l'entreprise, bah, il est défini de toute façon tout à fait standard, voyez, à l'intersection d'une courbe de recette marginale qui est décroissante et pas plate comme en concurrence parfaite, puis d'une courbe de coût marginal. Et vous avez une courbe de demande associée à cette recette marginale. L'équilibre s'établit à l'intersection de la recette marginale et du coût marginal. D'accord ? Condition pour que le profit soit maximum. Donc on a épuisé toutes les opportunités de profit existant quand la recette marginale est supérieure au coût marginal. Donc en ce point, le profit est maximum. Une fois qu'on a les quantités d'équilibre, on passe par la courbe de demande inverse, hop, et on a le prix. Vous voyez ? Voilà, bon, c'est là. En ce point, les entreprises appliquent un taux de marge à leur coût marginal. Alors la question que pose Harrod, c'est cet équilibre est-il stable ? Vous voyez ? Il nous dit, si on raisonne en équilibre partiel, il y a de bonnes raisons de penser qu'il est stable. À chaque fois qu'on sera hors équilibre, les entreprises réviseront leur plan et convergeront vers ce point. Donc un élément clé de la stabilité, vous voyez, c'est la décroissance de la courbe de recette marginale. Plus on produit, plus l'entreprise est forcée de concéder des baisses de prix, sinon elle ne peut pas vendre. Et puis plus elle produit, plus son coût marginal s'élève, parce que le rendement marginal du travail décroît. Okay. Donc, en équilibre partiel, la stabilité, c'est comme ça qu'il l'exprime, est assurée par des hypothèses qui touchent à la forme des courbes de demande, donc à la forme de la courbe de recette marginale, et puis à la forme de la courbe de coût marginal. La forme de la courbe de coût marginal, c'est ni plus ni moins, dans une économie où on considère que le travail comme input, c'est le rapport du salaire monétaire, supposé fixe, au produit marginal du travail. Si on a un salaire horaire de 10 euros, qu'en une heure, il est possible de produire 2 unités de biens, le coût marginal, c'est 10 sur 2. D'accord ? Donc le produit marginal du travail décroît, c'est pourquoi la courbe est croissante. Ça décroît, ça fait croître la courbe de coût marginal. Donc, une fois qu'Harrod fait ça, il nous dit, ces forces stabilisantes s'exercent-elles ou fonctionnent-elles toujours à l'échelle macroéconomique ? Il nous dit, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que, d'abord, la courbe de coût marginal a très peu de chances d'avoir cette forme. Elle sera plutôt plate. Les entreprises parce qu'elles disposent d'un pouvoir de marché, elles opèrent dans la partie plate de leur courbe de coût et pas dans la partie croissante. Donc cette force-là a peu de chances de fonctionner. Deuxièmement, nous dit Harrod, les courbes de recettes marginales sont certes décroissantes, mais l'ajustement à l'échelle macroéconomique, le long des courbes de recettes, s'accompagne d'effets revenus. Donc, tout déséquilibre entre l'offre et la demande à l'échelle macroéconomique déplace les courbes de recettes marginales vers la gauche ou vers la droite. D'accord ? Si les courbes se déplacent en présence d'un effet revenu, ce n'est pas cet équilibre-là qui sera atteint, mais un autre équilibre. Or, on a un problème d'indétermination qui se pose. Quel équilibre sera-t-il atteint ? Donc, si on se place maintenant à l'échelle de l'industrie, on le voit encore mieux de cette manière, vous prenez non plus l'équilibre de l'entreprise, mais l'équilibre d'un marché, vous mettez la demande, donc cette fois la demande bien décroissante, vous mettez l'offre. Si vous avez un excès d'offres de biens, là vous avez un prix, eh ben, l'ajustement devrait s'opérer ainsi. C'est ce qu'on voit par exemple quand on est à droite. Non, on est à gauche. Donc on... Mais le problème, c'est que la contraction de l'offre, vous voyez, entraîne une baisse de la demande. Donc la courbe de demande se déplace vers la gauche. Donc vous avez ici un effet prix, et là vous avez un effet revenu. L'équilibre est atteint que si l'effet revenu est dominé par l'effet prix. Or, comment arriver à un tel résultat ? Et ça, ça fait partie du problème de l'instabilité que discute Harrod. Alors, ce problème est résolu par Keynes, en fait, et Harrod publie son ouvrage en 1936 après avoir étroitement échangé avec Keynes. Et bah, il arrive à la solution, enfin, qu'on peut représenter à l'aide d'un diagramme que vous connaissez bien, qui est le diagramme à 45 degrés de Samuelson. Pourquoi ? Parce que le diagramme à 45 degrés de Samuelson démontre à quelles conditions les effets revenus sont dominés par les effets prix. Il faut pour ça faire deux hypothèses. Vous voyez, si ici je mets l'offre et là je mets la demande globale, vous avez l'équilibre macroéconomique. Donc là c'est la première bisectrice. Et puis vous avez la courbe de demande globale. Et cette courbe de demande globale a une forme très particulière qui tient au fait que la demande dépend de l'offre. C'est pour ça qu'elle est croissante. Elle dépend de l'offre en raison de quoi ? De deux hypothèses. On pourrait dire l'hypothèse 1, c'est que la consommation dépend de l'offre. Alors sous forme linéaire, ça donne ça. Avec C, c'est la propension marginale à consommer. La deuxième hypothèse que fait Keynes consiste à admettre que l'investissement est exogène. La combinaison de ces deux hypothèses donc, permet d'écrire une fonction de demande globale qui a cette forme-là. En ce point, on est à l'équilibre de tous les marchés. On est là. Ou là. À droite, on a un excès d'offre de biens. Vous voyez, l'offre est supérieure à la demande qui lui est associée. Donc, pour démontrer que l'effet prix va dominer l'effet revenu, il faut trouver un moyen de démontrer que la variation de la demande qui résulte des ajustements de l'offre, la variation de la demande qui résulte du glissement le long de la courbe de l'offre, en fait, est inférieur à 1. Et pour ça, il suffit de supposer que C est inférieur à 1, avec de l'investissement exogène. Donc, la stabilité, elle est garantie comme ça. Ces deux hypothèses suffisent à démontrer la stabilité de l'équilibre. Pourtant, quand on lit Arod en 36, c'est troublant parce qu'il nous dit, en vérité, c'est plus compliqué que ça. Il faut admettre que joue ce qu'il appelle la loi de l'élasticité de la demande décroissante. Et cette loi de l'élasticité de la demande décroissante, nous dit-il, est la garantie que cet équilibre-là sera bien stable. Cette loi stipule que le degré de concurrence change au cours de l'ajustement. C'est-à-dire que quand l'offre se contracte, vous voyez, la demande devient plus élastique. Et donc le taux de marge se réduit, si bien que l'ajustement peut s'opérer. Ça voudrait dire, nous dit, dans les termes du diagramme à 45 degrés, qu'au cours de l'ajustement, comme le taux de marge conditionne la répartition du revenu, qui conditionne la consommation, C bouge. Et C est vrai au cours de l'ajustement. Donc en fait, Arod nous dit, la pente change. Et ça stabilise le système. C'est troublant parce que quand on a lu Samuelson et le diagramme à 45 degrés, on voit bien qu'on n'a pas besoin de ce type d'argument pour arriver à démontrer la stabilité. À C constant, ça marche. Arod nous dit non, il faut recourir à une loi, la loi de l'élasticité de la demande décroissante, qui permet de démontrer le changement du degré de concurrence, le changement du taux de marge, le changement de la répartition et le changement de la consommation. Et donc, pour stabiliser le système. Alors, j'ai bien conscience que c'est un peu pointu, mais en fait, on réalise que cette loi est cruciale quand on passe de l'analyse d'équilibre à l'analyse du cycle et de la croissance. C'est comme ça que ça s'est passé.
On est en train de dire que quand l'offre se contracte, on a une augmentation de la concurrence.
Exactement. C'est-à-dire que les gens s'appauvrissent, et ils deviennent plus regardants sur les prix. Ils vont faire davantage l'effort d'aller s'approvisionner auprès des entreprises les plus qui offrent le meilleur prix. Et donc cet accroissement fait de la concurrence oblige les entreprises à abaisser leur taux de marge. Okay. Pourquoi c'est important quand on fait du cycle? Parce que j'efface là. Parce qu'en fait, nous dit Arod, cette hypothèse que fait Keynes, quand il étudie l'équilibre, cette hypothèse, elle n'est pas tenable dès lors qu'on raisonne à moyen et long terme. Il n'est pas tenable de penser que l'investissement est exogène. Il faut admettre que l'investissement va réagir, de même que la consommation, à l'offre. Okay ? Là, quand vous faites ça, cette condition n'est plus du tout, a beaucoup moins de chances d'être vérifiée. Pourquoi ? Parce qu'il s'agira de montrer que la demande va réagir à l'offre en fonction de la consommation et de l'investissement. Si bien qu'il est parfaitement possible, avec un investissement endogène, d'avoir ce cas de figure-là. Là, je mets l'investissement, je mets l'épargne et je mets le PIB. Si j'ai ma fonction d'épargne, c'est 1 moins C de Y, moins C bar, d'accord ? Si ma fonction d'investissement, I, c'est par exemple Y avec Y, c'est propension à investir, coefficient fixe, vous voyez, si Y est plus grand que 1 moins C, ça veut dire que Y plus C est plus grand que 1. Ça veut dire que j'ai dy qui est supérieur à 1. Ça veut dire que la pente ici est supérieure à la première bisectrice. L'équilibre est instable. Et c'est ça que Arod explore en 36 et en 39. Il nous dit, il est raisonnable de penser qu'on sera dans cette situation-là. Donc on a un principe d'instabilité dès lors qu'on introduit de l'investissement endogène. Alors, pour sortir de cette situation extrême, qui conclut que soit l'économie explose, soit elle disparaît, on comprend pourquoi la loi de l'élasticité de la demande décroissante est si importante. Parce qu'elle rend la fonction d'épargne non linéaire. Et ça, c'est un point que discute Kaldor en 1940. Kaldor parvient à montrer que lorsque la fonction d'épargne, compte tenu de la loi de l'élasticité de la demande décroissante, est non linéaire, par exemple ainsi, on a toujours le principe d'instabilité d'Aaron, mais cette instabilité est cantonnée, elle est locale. Ces équilibres-là sont stables, l'équilibre stationnaire est instable. Vous voyez ? Et c'est en ça que Aaron nous dit, le principe d'instabilité, pour stabiliser l'économie, il faut admettre que la fonction d'épargne, ça, ce terme-là, évolue au cours du temps. Il change. Donc quand le système explose, au bout d'un certain temps, la fonction d'épargne devient plus pentue que la fonction d'investissement, le système se stabilise. Et inversement, quand on est hors, quand le système entre en dépression, la fonction d'épargne devient à nouveau plus pentue, le système se stabilise. Alors en fait, c'est terriblement compliqué chez Aaron, parce que là, on raisonne en niveau, puisque son raisonnement, lui, est exposé en taux de croissance, taux de variation. Et donc, on peut transposer, vous voyez, l'analyse d'Aaron en termes de niveau de la manière suivante. Quand l'économie est hors équilibre, hors IES, c'est ce que Aaron décrit par la dynamique du taux de croissance effectif, taux de croissance actuel. Quand on a I égale S, c'est ce qu'il appelle le taux de croissance, ce qui se passe quand l'économie est sur son taux de croissance garanti. Et il a introduit un dernier taux, c'est le taux de croissance naturel, c'est-à-dire le taux correspondant à la croissance maximum de l'économie compte tenu de quantité de travail dans l'économie disponible. Et la combinaison de ces trois taux permet de décrire des dynamiques de ce type. Alors ça, c'est quelque chose que comprend immédiatement Jacob Marshak, le fameux directeur des études de la Coles des années 40, qui, avant d'arriver à la Coles, est à Oxford, dirige l'Institut de statistique d'Oxford, il est financé par la Fondation Rockefeller, et il envoie, avant même qu'Aaron publie son article, ce petit graphe absolument génial, dans lequel il montre qu'il a absolument déjà tout compris de ce qui se joue chez Aaron. Et il nous dit, regardez, G, c'est le taux de croissance effectif, GW, c'est le taux de croissance garanti, et puis, là, on a le taux de croissance naturel. Et donc, quand on a un déséquilibre entre G et GW, ce déséquilibre s'accroît au cours du temps. Vous voyez, c'est ce qu'on voit là. Ce déséquilibre, il s'accroît. Donc, vous voyez, le déséquilibre s'accroît, il fait que se renforcer. Mais comme, au bout d'un moment, l'économie ne peut pas croître plus vite que lui permet ses ressources naturelles, elle va taper contre un plafond. Donc, quand elle tape sur le plafond, G stagne, mais GW, lui, peut continuer à augmenter. Donc, on va avoir GW qui passe au-dessus de G. Ça veut dire que, graphiquement, ça donne ça. Vous avez un phénomène explosif, le système s'emballe, et imaginez que la courbe bascule comme ça vers le haut. Comme ça. Si elle bascule vers le haut, que le point est là, mais que l'économie, le maximum de PIB permis par les ressources naturelles est là, vous vous retrouvez dans la phase d'instabilité et l'économie rebascule vers le bas. C'est clair ou pas? Donc le système explose, la courbe se déplace vers le haut, le PIB ne peut pas croître plus fort que lui permis par les ressources naturelles, on se retrouve à gauche du point d'équilibre et le système bascule. À nouveau, ce processus stoppe parce que la courbe va se déplacer vers le bas. On va se retrouver à droite du point d'équilibre et le système remonte. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'on voit là. G est plus faible que GW, le système s'inverse. Et donc on a, chez Harrod, une explication du cycle et de la croissance simultanée, fondée sur le principe de l'instabilité. Et cette analyse simultanée du cycle et de la croissance n'est possible qu'en présence de non-linéarité. C'est-à-dire le fait que les fonctions, les coefficients clés des fonctions ne sont pas constants, mais bougent au cours du temps. D'accord ? Alors pourquoi vous avoir parlé d'Harrod ? Parce qu'en fait, ce que fait Solow en 1956, c'est de procéder à une simplification d'Harrod en admettant, par hypothèse, que G et GW sont toujours égaux. Donc l'instabilité que prête Solow à Harrod, dans le modèle que vous avez dû étudier, cette instabilité, elle ne concerne que les ajustements de G et GW, supposés égaux par définition, à Gn. Et toute cette histoire est complètement occultée. D'accord ? Donc la grande innovation de Solow, c'est d'avoir pensé la croissance en l'absence d'écart entre G et GW, en l'absence de déséquilibre, en vérité.
D'accord ? Est-ce que ces styles d'analyse qui donneront lieu à l'ouvrage de Minsky, Stabilizing the Non-Stable Economy ?
Non, ça je... Non, là, je... si on part dans cette direction, on risque de s'égarer. Mais je vous en dirai un mot à la fin. Alors, deuxième moment, est-ce que je l'ai là ? Oui, voilà. Une fois qu'on a dit ça, j'ai voulu intituler la deuxième section par en revenant au concept de synthèse néoclassique. Et en fait, au-delà des présentations, des conceptions que je vous ai présentées, il y en a une nouvelle qui émerge en lien avec la croissance. Et au fond, c'est la synthèse néoclassique telle que l'introduit explicitement Samuelson dans les fondations de l'analyse économique, son manuel. Et il le fait en 1947, de manière un peu vague, en disant « la synthèse, c'est un consensus, ça révèle que les économistes sont raisonnables, ils savent reconnaître ce qui est bon dans la théorie keynésienne, ce qui est bon dans la théorie libérale. » En 1957, je crois, il donne un contenu beaucoup plus précis à la synthèse. Maintenant qu'il dispose du modèle de Solow, Samuelson dit « je suis un partisan de la synthèse néoclassique, parce que je pense que le long terme est bien décrit par le modèle de Solow. Je suis un keynésien parce que je pense que le modèle ISLM, pour le court terme, c'est le bon modèle. » Alors, en faisant ça, il réalise, je pense que c'est un coup de génie, c'est-à-dire qu'il réalise une synthèse, c'est-à-dire une combinaison de conceptions, sans jamais prêter au système cette capacité d'auto-ajustement. Comment s'y prend-il ? Il nous dit, le modèle de Solow n'a de sens il n'y a de sens à supposer que G et GW sont égaux en permanence, que je n'ai pas de problème de demande effective que parce que l'État intervient et résout ces problèmes. Et alors, quand on adopte ce point de vue et qu'on le met en contexte, c'est assez troublant parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Solow développe son modèle de croissance en 1956, qu'en l'espace de quelques années, ce modèle est mobilisé pour faire de l'économétrie, et que Solow va travailler au Conseil d'analyse économique auprès de Kermit Gordon, Walter Eller, James Tobin, pour conseiller Kennedy, et puis ensuite il sort et les Keynésiens continuent auprès de Johnson, etc. Donc le modèle, la grille de lecture qui devient effective, enfin, le modèle qui façonne et structure l'analyse économique, à l'époque, c'est le modèle de Solow, tel qu'il le voyait, ou tel qu'il l'utilisait en tant que keynésien. Autrement dit, c'est des auteurs qui plaidaient en faveur de la croissance et en même temps du recours au keynésianisme, parce que pour eux, l'ajustement G et GW n'était jamais automatique. C'est l'État qui devait assurer le plein emploi. Et une fois que le plein emploi était atteint, la trajectoire de l'économie à long terme était bien décrite par le modèle de Solow.
Ça, c'est pour fonder l'interventionnisme.
Non, ça fonde l'interventionnisme, mais c'est surtout, c'est des auteurs qui prennent acte que le système ne s'auto-ajuste jamais. Parce qu'il n'y a pas d'auto-ajustement, c'est l'État qui doit assurer la convergence de G à GW. Mais une fois que G et GW sont égaux, on sait comment se comporte l'économie. Parce qu'on a le modèle de Solow et le mécanisme décrit par le modèle de Solow qui nous renseigne bien sur la façon dont l'économie va se comporter.
Ce qui signifie que Solow n'a pas eu la maîtrise de son modèle ensuite.
Si, alors juste, alors là c'est subtil. Solow, en fait, se dit keynésien, mais il sort de l'analyse de la croissance tout ce qui relève de l'analyse keynésienne, c'est-à-dire tout ce qui relève des déséquilibres entre I et S. D'accord ? Il le sort de l'analyse. Mais en le sortant, il le sort vraiment habilement par une astuce, en disant « je le sors parce que je pose par hypothèse que c'est l'État qui les résout ces problèmes ». Et donc, cette conception est... On comprend mieux comment Solow pouvait à la fois faire partie du Conseil d'analyse économique et utiliser son propre modèle. Comment il pouvait être à la fois un conseiller économique auprès de Kennedy, tout en utilisant son modèle de croissance. Pour lui, il n'y avait aucune contradiction à plaider en faveur des politiques keynésiennes et à utiliser le modèle de croissance néoclassique. Vous voyez ? Donc ce modèle, plus ou moins utilisé. Bien sûr, c'était des économistes pragmatiques qui avaient arbitré une pression assez forte du côté des libéraux, style au keynésianisme, à l'interventionnisme, à la planification, donc c'était pas si confortable. Mais ils y parviennent, ils réussissent assez bien. Et Solow reste que 2 ans au Conseil d'analyse éco, il sort, il retourne au MIT, et il développe le département qui, pendant 10 ans, est vraiment à la pointe des théories de la croissance. Et donc on voit se développer à ce moment-là théorie de la croissance par Stiglitz, le jeune Sen qui travaille là-bas, Frank Hahn, tout le monde fait de la croissance. Et les spécialistes de la croissance, c'est Solow et Samuelson. Et donc on les voit structurer le champ de la recherche pendant 10 ans autour de la croissance. D'accord ? Donc c'est remarquable. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Dans le même temps, on a un débat entre ce département du MIT qui monte en puissance, puis les économistes cambridgiens comme Nicolas Kaldor, Pasinetti, John Robinson et d'autres, qui eux suivent une autre voie. Alors, quand on lit les manuels de macro, souvent on oppose le modèle de Solow au modèle cambridgien en disant voilà, le taux de croissance garanti, qui est égal, c'est S sur V. Voilà. S, c'est le taux d'épargne, et V, c'est le coefficient technique. Solow est celui qui pense que les ajustements de GW à GN s'opèrent par les changements de V. Et puis, Kaldor et les autres, c'est ceux qui pensent que les ajustements s'opèrent par les changements de S. Alors, c'est en partie vrai. Mais un travail sur les échanges et les archives, correspondance entre ces auteurs, révèle qu'en fait, ce n'était pas ça leur problème. Ce n'est pas cette opposition-là qui les intéressait. Et notamment, ce n'est pas ce qui intéressait Samuelson quand il met en avant la synthèse néoclassique. Donc il publie un article qui est mentionné par très peu de commentateurs, et c'est tout à fait étonnant, un article consacré à la synthèse néoclassique. Et il nous dit... La synthèse néoclassique doit se comprendre comme totalement opposée au caldorisme, à tout ce qui touche au changement de S. Alors, à première vue, on se dit, s'il est hostile au changement de S, c'est parce qu'il considère que c'est le changement de vie qui compte. En fait, c'est pas ça. Il est hostile aux Cambridgiens parce que Kaldor et d'autres supposent que, je reviens à mon petit graphe, suppose que les changements de S agissent sur les ajustements de G et de GW. Vous voyez ? Ça veut dire qu'en fait, ce qui gêne le Samuelson et les tenants de la synthèse néoclassique, c'est que les ajustements de l'épargne puissent justifier l'ajustement de l'économie hors équilibre vers son sentier d'équilibre. Donc les changements de la répartition du revenu et donc les changements du taux d'épargne expliqueraient les ajustements de G à GW. Pour le dire encore autrement, ce que font Solow et Samuelson, ils posent que G égale GW grâce à l'intervention de l'État. Ce que fait les Kaldoriens, nous dit Samuelson, c'est qu'ils posent que les ajustements de G à GW s'opèrent grâce au changement de la répartition du revenu et au changement de S. Mais, nous dit Samuelson, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Parce que c'est prêter au système cette capacité de s'auto-ajuster par les changements de la répartition du revenu. Et ça, c'est vraiment anti-keynésien. C'est prêter au système une capacité d'auto-ajustement. Donc il y a des lettres cinglantes de Samuelson qui qualifient Kaldor de Jean-Baptiste Kaldor. Vous voyez ? Jean-Baptiste Kaldor lui répond, mais pourquoi tant de haine, quoi ? Il dit, mais parce qu'il se joue quelque chose d'énorme à la clé. C'est-à-dire, si cette théorie s'impose, alors l'intervention publique n'a plus de raison d'être. Laissons la répartition du revenu assurer les ajustements. Si on est en dépression, eh ben, la répartition du revenu se déforme en faveur des salariés et on retourne au plein emploi. Samuelson nous dit, mais qui peut croire que ça va avoir lieu ? Donc, l'objet là, ici, c'est de vous attirer votre attention sur une autre dimension du débat entre les deux Cambridge, qui n'a rien à voir avec la théorie du capital, qui touchait au traitement de la croissance entre ceux qui pensaient les ajustements de... Qui prêtaient une capacité d'auto-ajustement au système et ceux qui, au contraire, les vrais keynésiens, qui refusaient d'aller dans cette voie.
Et que répond Kaldor ?
Alors, Kaldor est une cible mouvante, en fait. En fait, à chaque fois qu'il répond, il explique qu'il a fait autre chose dans un autre modèle. Donc, en fait, j'ai eu accès aux échanges en fait, d'Amartya Sen avec Samuelson et Kaldor et Frank Hahn. Et en fait, on s'aperçoit qu'entre 56 et 62, Kaldor produit 6 ou 7 modèles de croissance de variantes différentes. Donc dans certains modèles, cet ajustement joue, dans d'autres, moins. Il parle du progrès technique, etc. Donc Samuelson et Sen cherchent à formaliser l'argument de Kaldor. Et Samuelson est celui qui cherche à trouver le cœur de l'argumentation. Il nous dit le cœur, c'est la répartition du revenu, et à chaque fois, vous prêtez de propriétés d'auto-ajustement au système. Et donc, Kaldor, à un moment, décroche, parce que je pense qu'il n'a pas grand-chose à répondre à ça, quoi. Au fond, les Cambridgiens, curieusement, ils étaient moins keynésiens que les économistes du MIT, à ce point de vue-là. J'ai pas vu de réponse, de réaction nette, claire là-dessus. Alors, dernier point avant de passer à la suite. On va avoir du mal à finir. C'est sur le progrès technique. C'est-à-dire, une fois qu'on a cette vision de la croissance, type MIT, quel est finalement le moteur de la croissance ? Il conclut rapidement que c'est le progrès technique. Que les politiques ne peuvent pas tellement faire grand-chose pour soutenir la croissance parce qu'il y a cette loi des rendements décroissants qui confère à la politique économique uniquement un effet temporaire. Donc on a des choses là-dessus. Je passe. Donc il faut que j'aille un peu plus vite. Je ne pourrais pas parler de la théorie post-keynésienne. Donc passons à la partie macro-contemporaine. Alors, les choses, d'un point de vue théorique, sont bouleversés dans les années 1970 par notamment Robert Lucas, mais ce n'est pas le seul, qui va définir une exigence méthodologique nouvelle, hein, que vous connaissez certainement. C'est l'idée que toute théorie macroéconomique doit avoir des fondements microéconomiques. C'est au fond, toute théorie macroéconomique ne peut, n'a de sens que si elle est conforme ou elle rend compte de plans d'optimisation intertemporelle des agents. Dire ça, c'est, ou avancer cet argument, c'est se conformer à ce que Lucas a appelé la discipline de l'équilibre. Puisque on va étudier les plans d'optimisation d'un agent, du même coup, on va uniquement s'intéresser qu'aux résultats de ces plans qui constituent des points d'équilibre, des réponses optimales dans un environnement. Vous voyez ? Donc, se met en place un nouveau champ de la recherche en macroéconomie dans lequel, en l'absence de rigidité nominale, conformément à cette discipline de l'équilibre, émergent des modèles qui rendent compte des trajectoires de l'économie. Alors ça c'est pas fait comme ça de manière monolithique. Vous avez d'abord Lucas qui fait des modèles d'équilibre en information imparfaite. Et puis ensuite, vous avez les théoriciens du cycle réel qui s'intéressent moins, pas à la monnaie, à l'information imparfaite, mais plutôt au choc technologique. Et puis, vous avez des travaux plus récents. D'accord ? L'énorme force de cette approche, je dirais, c'est bien souligné par le texte, je ne sais pas s'il apparaît ici, il apparaît plutôt dans la suite. Je ne sais pas s'il est là. Le texte d'Hérault, par exemple, c'est bien montré. C'est qu'au fond, ce programme de recherche se structure autour de la question de la validation empirique des modèles. Donc, on a à nouveau un parallèle entre ce qui s'est passé dans le domaine de la théorie des jeux et ce qui se passe là dans le domaine de la macro. C'est-à-dire qu'on a un corpus théorique qui se développe et dans le même temps, ces modélisations, les nouvelles modélisations, permettent des nouvelles expériences dans le cas des jeux. Dans le cas de la macro, ces modèles ultra stylisés, qui peuvent être déroutants tellement ils sont stylisés, sont aussi les modèles qui ont été le plus mobilisés pour faire l'objet d'un test. Voyez ? Et donc la communauté en fait, des macroéconomistes s'est structurée, ou un des ciments de cette communauté, ça a été le rapport au test. Et donc on a toute une communauté qui s'efforce d'ajuster, d'améliorer la capacité prédictive ou la pertinence empirique de ces modèles. Et ça a été un énorme moteur, facteur de cohésion dans cette communauté. Vous voyez ? Alors, là, je voudrais évoquer un point qui est rarement discuté. C'est que au moment où Lucas développe ses modèles d'équilibre, flexibilité parfaite des prix, vous avez une sous-communauté qui émerge et qui vise à se placer sur le même terrain et à produire des résultats opposés en termes de stabilité et en termes de politique économique. Et donc vous avez le courant de la nouvelle économie classique qui voit, qui se développe, ou un autre courant se développe simultanément, c'est celui des théoriciens des tâches solaires et des cycles endogènes, qui recourt exactement aux mêmes modélisations, une modélisation du même type, mais pour démontrer que les mouvements de l'économie peuvent être erratiques, que d'autres chocs, que les chocs technologiques peuvent avoir un effet sur la dynamique économique, qu'au fond, l'économie est caractérisée par des pathologies, des dysfonctionnements, et qu'elle n'est pas simplement la réponse optimale, la plus efficiente à des chocs par des agents rationnels. Donc en fait, on a ce discours, cette doctrine qui est contrebalancée par une autre doctrine qui est défendue par des communistes qui utilisent les mêmes outils. D'accord ? Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que 99% des économistes appartiennent au premier groupe. Et vous avez un petit groupe ici qui représente 1%. Donc, d'un point de vue historique, force est de reconnaître que un déséquilibre qui est énorme entre les deux groupes. Mais le travail d'histoire, quand même, permet de faire ressortir des éléments qui sont quand même troublants. C'est que parmi les théoriciens de ce groupe se trouvent des personnes qui vont jouer un rôle énorme dans le développement de ce qu'on a appelé la nouvelle synthèse néoclassique. Et notamment, vous avez un auteur qui appartient à ce groupe qui s'appelle Michael Woodforde, qui est le grand théoricien de la nouvelle synthèse, qui appartenait au départ à ce groupe-là. D'accord. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler des modèles à génération imbriquée et puis des modèles modèles de croissance optimale? Parce qu'au fond, ce qui se passe, et ça c'est complètement occulté par tous les manuels qui reconstruisent l'histoire d'un point de vue logique. Ce qui se passe, c'est que pour apporter la contradiction aux théoriciens des cycles réels, ces économistes-là recourent au modèle à génération imbriquée. Donc le modèle à génération imbriquée, au départ, il n'est pas étudié dans le but de traiter des problèmes de retraite, etc. Il est étudié dans le but de produire une théorie du cycle conjoncturel. D'accord ? Pourquoi ils choisissent de se placer sur ce terrain du modèle à génération imbriquée ? Parce que Lucas lui-même l'avait fait. Donc par exemple, Grandmont, Schell, tous ces auteurs utilisent le modèle à génération imbriquée, Azariadis, parce qu'ils veulent apporter la contradiction à Lucas, qui lui utilisait aussi un modèle à génération imbriquée. D'accord ? Que se passe-t-il ensuite ? Ces travaux se développent, surtout dans le Journal of Economic Theory, ils se développent. Et le modèle à génération imbriquée est désigné comme la principale raison, la principale origine de ces résultats bizarres, d'instabilité, etc. Donc là, la préoccupation de ces auteurs, c'est d'étendre les modèles à génération imbriquée à un autre modèle, de les transférer. Et ce, pour le transférer, ils recourent au modèle de croissance optimale. Le modèle de croissance optimale reproduit ces résultats qu'à condition de lui adjoindre des imperfections de marché. Donc les imperfections de marché en macro sont introduites par ces théoriciens-là qui veulent transférer les résultats obtenus à partir du modèle à génération imbriquée. D'accord ? Donc dans les années 80, on a deux voies de recherche, une extrêmement dominante et une autre beaucoup plus périphérique, mais d'un point de vue logique, elles sont comparables. Et ces deux voies de recherche convergent partiellement au moment où les théoriciens de cette seconde voie cherchent à transférer leurs résultats à un modèle de croissance optimale avec imperfection de marché. Et la convergence s'opère avec le premier groupe, parce qu'en faisant ça, ils arrivent à mieux s'ajuster à des bons résultats empiriques. D'accord ? C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que le terrain de la nouvelle synthèse néoclassique s'est mis en place, s'est établi. Alors, c'est quoi la nouvelle synthèse néoclassique ? La nouvelle synthèse néoclassique, c'est ce qu'on appelle le modèle qui englobe tous les modèles type DSGE. C'est-à-dire, c'est des modèles de croissance optimale avec imperfection de marché, concurrence monopolistique, ou oligopolistique, ou de toutes sortes, plus des rigidités nominales. Et la synthèse néoclassique, nouvelle synthèse néoclassique, au fond résulte de la conjonction de ces deux courants, ou plutôt de ce courant auquel on aurait ajouté les rigidités nominales. Et là, on a la synthèse. Et c'est ainsi qu'on voit par exemple à Michael Woodforde ou par exemple Jordi Galli, les deux grands parmi les plus importants représentants de la nouvelle synthèse néoclassique, commencer par ce type d'analyse. Instabilité, ensuite on passe à un modèle de croissance optimale, on met de l'imperfection, ensuite on rajoute les rigidités nominales, et on a le modèle des yeux. Alors, alors, justement, ça, Stiglitz, c'est une bonne question. Alors, Stiglitz, il fait partie de ces nouveaux keynésiens. C'est un nouveau keynésien. Et au fond, la fusion, elle s'opère principalement entre les deux petites communautés qui faisaient de la dynamique. D'accord ? Celles qui faisaient le cycle réel et puis ceux qui faisaient des tâches solaires, etc. Et puis, il y a l'imperfection de concurrence. Et là, la fusion se fait. Mais parallèlement, se développent des travaux qui ne sont pas dynamiques. Donc, c'est tous les modèles à la Stiglitz, par exemple, sur le crédit, sur le marché du travail, etc., qui n'ont pas une dimension dynamique. Donc, ces modèles, d'une certaine manière, restent en dehors de cette synthèse. D'accord ? Mais il faut nuancer parce que une partie de ces modèles ont aussi été intégrés au modèle de cycle réel, d'une manière ou d'une autre. Mais disons qu'ils n'étaient pas dynamiques. Donc c'était une... En fait, par exemple, vous avez des historiens qui vont vous dire qu'il y a les nouveaux keynésiens type 1 et les nouveaux keynésiens type 2. Type 1, c'est des équilibres partiels statiques. C'est des petites modélisations de ce type. Et les keynésiens, nouveaux keynésiens type 2, c'est ceux qui font la dynamique, c'est-à-dire utilisent des modèles de croissance optimale, arbitrage intertemporel, etc., dans lequel ils introduisent des imperfections de marché. Donc, au fond, les nouveaux keynésiens type 1 restent en dehors de la synthèse, d'une certaine manière, la nouvelle synthèse néoclassique. Donc, Stiglitz, par exemple, est un auteur qui est un peu en dehors de la nouvelle synthèse néoclassique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il tapait si fort sur le modèle des yeux, parce qu'il n'a jamais vraiment participé à son développement. En revanche, Woodford, c'est le champion du DSE. Voilà. Donc la synthèse est davantage opérée entre les économistes keynésiens qui faisaient de la dynamique et les nouveaux classiques qu'entre ceux qui faisaient, les économistes keynésiens qui faisaient de la statique et de l'équilibre partiel. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez des questions ? Voilà.
J'avais la question sur Minsky tout à l'heure.
Alors, Minsky, oui. Quelques éléments de réponse sur Minsky. Minsky, moi, je le rangerais davantage du côté de la synthèse à la façon de Tobin. C'est-à-dire penser l'instabilité, la fragilisation de l'économie. Donc l'économie peut être plus ou moins résiliente au cours du temps. Et Minsky pointe les marchés financiers comme principale raison de la fragilisation des économies. Les marchés financiers fragilisent les économies, génèrent un endettement trop grand qui, au bout d'un moment, les rend très très sensibles à des chocs. Donc, en fait, je vois un lien, Lay John Food, Tobin, Minsky.
D'accord, parce qu'il est quand même considéré comme un post-keynésien.
Alors voilà, il y a des collègues qui auraient du mal à avaler ça, mais... Le problème des post-keynésiens, c'est qu'un post-keynésien, du point de vue néoclassique, tous les keynésiens comme Solow, Samuelson sont des post-keynésiens, si vous voulez. Parce qu'ils recourent à la théorie du déséquilibre. Mais ils insistent sur les questions de pouvoir, ils insistent sur les questions de répartition du revenu, et ils insistent sur la finance. Mais d'une certaine manière, ils n'étaient pas une sorte de continuité entre Tobin et Minsky. Je ne vois pas de rupture, moi, radicale.
C'est sur l'incertitude.
Oui, mais quand Minsky, dans les années 60, développe des petites modélisations de cycles, vous n'avez pas d'incertitude radicale. Il va vous mettre une fonction d'investissement qui repose sur un traitement d'anticipation qui est tout à fait le même que celui de Tobin, par exemple. Donc, peut-être que dans des textes littéraires non formalisés, il évoque des arguments qu'on ne trouve pas dans les modélisations, mais ça ne veut pas dire qu'il était complètement hostile aux modélisations keynésiennes de son époque, plus standard.
Tout dépend de la portée qu'on leur donne après, quoi.
Non, disons que Minsky, il développe une intuition qui récemment est apparue très sérieuse, c'est-à-dire l'idée que quand on déréglemente les marchés, on prépare le terrain d'une nouvelle crise. Mais cette idée, elle est partiellement capturée par le modèle de Tobin de 1975. Si on favorise l'endettement, l'économie est davantage susceptible de s'effondrer. Sa zone de confort se réduit. C'est très minskien, je trouve.
Oui, mais l'argument de Minsky, il n'est pas tant quantitatif qu'en rapport avec les anticipations et avec la convergence d'anticipation vers une déflation par la dette à la Fischer, quoi.
Oui, mais vous pouvez très bien mettre des anticipations élastiques chez Tobin, des gens qui extrapolent la tendance, puisque les anticipations sont adaptatives, et arriver à une histoire qui est vraiment similaire à celle que va raconter Minsky. Mais c'est un modèle, donc il ne va pas tout capturer. Mais je vois pas de rupture. Ah, il y a des différences, hein, mais je vois pas de rupture. Bon, ben on s'arrête là. Merci.